Bonjour, je suis Dr. Claude Garceau, interniste à l'UCPQ. Je suis médecin à cette grande institution et je prescris très souvent du fer intraveineux pour le traitement de l'anémie ferriprive en raison de notre clientèle anticoagulée qui a des atteintes cardiovasculaires et qui a souvent de l'insuffisance cardiaque ou rénale. Alors, je vous présente aujourd'hui mon invité, Mme Mélissa Rodrigue, qui est une vraie spécialiste du fer, qui est pharmacienne au centre hospitalier de Thetford Mines. Bonjour Mélissa, d'où vient votre intérêt dans le traitement avec le fer intraveineux?
Bonjour Dr. Garceau. Alors disons que je suis tombée dedans rapidement au début de ma carrière. J'ai travaillé à la clinique externe de l'hôpital où quotidiennement plusieurs patients reçoivent des perfusions de fer intraveineux, ainsi qu'avec la clientèle hémodialysée. C'est ce qui m'a permis d'être exposée à la gestion des doses, mais aussi des effets indésirables reliés à ces molécules.
Quelles sont nos principales indications de thérapie en fer? Évidemment, je pense que notre clientèle connaît quand même un peu des indications, mais particulièrement le fer intraveineux.
Mais c'est sûr que pour la majorité des patients, le fer par voie orale est le traitement à privilégier, compte tenu de sa facilité d'administration, de son coût et de son efficacité. Mais le fer intraveineux peut aussi être utilisé chez un large éventail de patients, appuyé par plusieurs études qui ont démontré son efficacité dans des situations très différentes. Le fer intraveineux va devenir une option de choix chez nos patients qui ont une inefficacité ou une intolérance aux préparations de fer par voie orale. On peut aussi prévoir un peu l'inefficacité du fer par voie orale chez certaines clientèles. Par exemple, c'est chez ceux dont une absorption inadéquate est anticipée, comme chez les patients qui souffrent d'un syndrome de malabsorption ou lorsque les médicaments sont administrés par vaginostomie, parce que là, la zone intestinale d'absorption du fer est alors dépassée. Les patients qui souffrent de maladies inflammatoires de l'intestin aussi peuvent nécessiter du fer intraveineux, puisque leur absorption du fer ferreux est souvent réduite. Pour compenser les pertes sanguines chroniques de certains patients, parfois le fer ferreux est insuffisant. Alors là, l'administration du fer intraveineux est avantageuse parce qu'il va nous permettre des administrations de quantités importantes en fer élémentaire. Son utilité aussi chez la clientèle avec insuffisance rénale n'est plus à démontrer. Le fer intraveineux est supérieur au fer oral, particulièrement chez notre clientèle hémodialysée. Il faut aussi prévoir son administration chez les patients qui reçoivent une nutrition parentérale d'une durée anticipée supérieure à 2 semaines. Chez les patients cancéreux, le remplacement oral du fer est souvent inefficace, car l'absorption intestinale du fer est considérablement réduite chez ces patients-là. Donc, l'administration du fer intraveineux peut être utilisée chez cette population puisqu'il va contourner, l'effet de séquestration du fer médié par l'excidine de l'inflammation dans le cancer. Puisque les résultats obtenus aussi avec l'administration du fer intraveineux sont beaucoup plus rapides que ceux obtenus avec le fer oral, on va noter souvent une augmentation de 20 grammes par litre de l'hémoglobine en 3 semaines grâce au fer intraveineux. Ça devient donc beaucoup plus intéressant comme voie d'administration chez les patients qui souffrent de symptômes sévères d'anémie. Lorsqu'aussi on a besoin d'une augmentation de l'hémoglobine ou d'une réflexion en fer pour maintenir l'hémoglobine en prévision d'une chirurgie élective, par exemple à risque d'hémorragie élevée, et que le délai avant la chirurgie est court, mais le fer intraveineux devient une option de choix aussi. Idéalement, prévoir par contre d'administrer le fer intraveineux au moins 2 à 4 semaines avant l'opération pour permettre une meilleure efficacité. Chez la femme enceinte, on a longtemps cru que l'anémie, c'était physiologique chez cette population-là, mais il est bien connu maintenant que le risque de mortalité postpartum est augmenté en présence d'anémie chez cette population. Donc, le fer intraveineux peut être bénéfique chez cette clientèle, particulièrement chez les patientes qui vont souffrir d'une anémie sévère ou lorsqu'on diagnostique une hémoglobine inférieure à 100 grammes par litre après 34 semaines de grossesse. Bien entendu, on devrait aussi y penser chez cette population en prévision d'une césarienne élective à risque d'hémorragie élevée. Par exemple, lorsqu'on a un placenta previa ou un trouble du spectre du placenta accrète, par exemple. Son utilisation aussi chez les patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection réduite et carence en fer a fait l'objet de plusieurs études. On sait que le traitement de la carence en fer chez cette clientèle a réduit les hospitalisations lors de certains essais. Sa place demeure quand même un petit peu à déterminer parce que toutes les études ne sont pas positives.
Maintenant, j'aimerais vous poser comme question, quelles sont les différentes sortes de fer utilisées brièvement au Canada pour le traitement de l'anémie ferriprive?
Il existe présentement 3 sortes de fer intraveineux qui sont disponibles sur le marché canadien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont tous couverts par le régime d'assurance médicaments du Québec, sans code, sans rien, Le plus connu, c'est certainement le fer sucrose ou fer saccharose, dont le nom de commerce, c'est Venofer. Ce fer-là peut être administré par dose de 100, 200 ou 300 mg à la fois. Des études dont on avait démontré qu'on pouvait utiliser des doses allant jusqu'à 500 mg, mais sachez que si vous dépassez 300 mg, vous exposez le patient à plus d'effets indésirables. Idéalement, vous devriez attendre 48 heures entre deux doses. Mais il y a certaines études qui ont démontré qu'il était possible de l'utiliser aux 24 heures, en autant que vous ne dépassez pas 3 doses par semaine ou 5 doses par 14 jours. L'administration est un petit peu lente. En fait, vous devez calculer 30 minutes à chaque tranche de 100 mg pour son administration, ce qui fait qu'une dose, par exemple, de 300 mg va prendre 1h30 à perfuser. Le complexe de gluconate ferrique, qui est connu plus sous le nom commercial de ferlicite, permet, lui, des administrations de doses de 62,5 ou de 125 mg maximales en une seule injection. Vous pouvez retrouver dans la littérature scientifique des doses uniques de 250 mg qui ont été administrées. Cette pratique-là a été tentée au Québec il y a plusieurs années. Le résultat a été désastreux. Plus de la moitié des patients ont dû recevoir des soins médicaux pour la gestion des effets indésirables suite à l'administration de cette dose. Donc, sincèrement, je vous la recommande pas. Ce faire s'administre en 1 heure et vous devez attendre au moins 48 heures entre l'administration de 2 doses. C'est un faire qui est régulièrement utilisé dans nos cliniques d'hémodialyse, un parce que son coût est faible, mais aussi à cause de la possibilité de l'administrer non dilué chez cette clientèle directement dans le circuit de dialyse. Le faire le plus récent qu'on a présentement sur le marché, c'est le faire d'érysomaltoside. Il était connu autrefois sous le nom de faire isomaltoside, c'est du nom générique le monoférique. Ce fer permet quand même une administration de doses uniques plus élevées. Donc, vous pouvez administrer 500, 1000 ou 1500 mg en une seule injection. Par contre, attention, vous ne devez pas dépasser 20 mg par kilo par administration. Donc, les patients de petit poids ne peuvent pas recevoir 1500 mg là, en une seule injection. Un intervalle de 7 jours aussi est nécessaire entre 2 doses. Sa perfusion devrait être d'une durée d'1 heure. C'est ce qui est recommandé dans le protocole de l'INIS. Si vous ouvrez la monographie du produit, la compagnie, elle, va recommander de perfuser les doses de 1000 mg sur 20 minutes ou plus et les doses de 1500 mg sur 30 minutes ou plus. Mais la durée d'1 heure a été retenue à l'INIS là, car les perfusions rapides offrent malheureusement plus d'effets indésirables. Sachez que le fer dextran, qui était le seul fer qui pouvait être administré intramusculaire, a été retiré du marché canadien il y a quelques années.
Maintenant, peut-être une petite question simple. Comment on calcule la dose de remplacement de fer pour un patient en fonction du poids et du degré d'anémie?
En fait, c'est sûr qu'on peut calculer, quand on veut répléter notre patient, on peut utiliser la formule de Ganzoni. C'est une formule qui va multiplier le poids corporel du patient au résultat de la soustraction entre le taux d'hémoglobine cible et le taux d'hémoglobine réel de notre patient. On multiplie le tout par 2,4 et on additionne le dépôt en fer, en milligrammes. C'est vraiment précis comme méthode, mais certainement pas pratique et je vous dirais que c'est très peu utilisé en clinique. Ce qu'on va faire, c'est que pour le fer sucrose et le complexe gluconate ferrique, on va viser environ 1000 mg total de fer pour répléter nos patients. Ça va marcher chez à peu près tous nos patients. Ce qui va donner environ 3 perfusions de 300 mg de vénofer, ou 8 perfusions de 125 mg de ferlicite. La monographie du fer d'érysomaltoside ou isomaltoside, ça va contenir quant à elle un tableau des doses requises en fonction des poids et des valeurs d'hémoglobine de notre patient. Fait que c'est vraiment plus simple de s'y référer. Les doses nécessaires, elles, vont osciller entre 500 et 2000 mg. Bien entendu, le traitement initial de fer intraveineux peut être répété lorsque les paramètres du bilan martial sont pas dans les cibles visées 4 à 6 semaines après la réflexion. Le traitement initial n'a pas réussi à augmenter la concentration d'hémoglobine. Dans ce temps-là, il faut tenir compte des taux de ferritine, de la saturation de la transférine, de la concentration d'hémoglobine et de sa réponse au traitement pour déterminer s'il faut continuer la thérapie par le fer. Certains patients vont nécessiter des doses chroniques de fer intraveineux pour maintenir leur réserve. On peut voir des schémas posologiques qui peuvent ressembler à vénofer 300 mg au mois, par exemple, ou monoférique 1000 mg aux 3 mois, par exemple.
Maintenant, on va passer pour les effets secondaires du fer. Je dois vous avouer que moi qui pensais tout savoir, j'ai appris sur la réaction de Fishbein, qui est une nouveauté absolue pour moi, mais en tant que grand prescripteur de fer, surtout maintenant que le fer se donne à l'extérieur de l'hôpital, je dois être au courant de ces effets secondaires-là. J'aimerais que vous me fassiez peut-être une petite synthèse de ce que nos auditeurs devraient connaître.
Oui, au fer. Oui, on a longtemps craint les réactions allergiques suite à l'administration du fer intraveineux Probablement parce qu'on a été marqué par les époques où on utilisait le fer dextre. Mais là, il faut savoir que les réactions allergiques sont vraiment plus rares avec les trois fers disponibles présentement. Il y a un risque d'environ 0,2 à 1,71% d'allergie. Ce qu'on voit surtout, c'est des réactions cutanées exanthémateuses. Le risque d'anaphylaxie, lui, est seulement de 1 sur 200 000 administrations. C'est vraiment pas fréquent. Ce qu'on voit beaucoup comme effet secondaire, je vous dirais, c'est surtout d'ordre gastro-intestinaux. Les patients peuvent se plaindre de douleurs abdominales, de dysgeusie, le fameux goût métallique dans la bouche, hein, des nausées, de la diarrhée, qui vont apparaître souvent durant votre perfusion. 13 % des patients, eux, vont vous rapporter des céphalées. Certains patients vont avoir des faiblesses. 6 % même vont se plaindre de paresthésie transitoire. Classiquement, les paresthésies, les gens vont nous parler de leur bout de doigt qui pétille. Mais c'est quand même possible d'avoir des paresthésies de tout le corps. 1 % des patients vont avoir ce qu'on appelle une réaction de Fishbein. Des convulsions sont possibles, extrêmement rares. 24 à 72 heures après la perfusion, un sixième de vos patients peuvent ressentir des syndromes pseudo-grippaux avec de la fièvre, des étourdissements, de la fatigue, des céphalées, des myalgies. Vous pouvez aviser votre patient hein, de traiter ces symptômes-là grâce à de l'acétaminophène tout simple. On pourrait être tenté, hein, des fois, de dire « je vais donner une prémédication pour prévenir les effets indésirables », mais sachez qu'il y a des études rétrospectives qui ont démontré qu'il y avait 36 fois plus d'effets indésirables pour les patients qui ont reçu une prémédication avant leur faire intervenir que ceux qui n'en ont pas reçu. Donc, c'est pas un réflexe que vous devriez avoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des effets secondaires sont reliés à la vitesse d'administration du fer intraveineux et qu'idéalement, vous devriez connaître la clientèle la plus à risque d'effets indésirables et prévoir chez cette population-là une diminution de la vitesse d'administration. C'est vrai que la réaction de Fishbein, c'est peut-être quelque chose hein, que vous étiez moins à l'aise avec le mot. En fait, la réaction de Fishbein a été décrite pour la première fois en 1991 par le professeur en médecine de l'Université de New York qui s'appelle Steven Fishbein. C'est une réaction dont le mécanisme exact reste un peu inconnu, mais ça semble lié à l'activation du complément par le fer labile. Quoique très impressionnante, je vous dirais, cette réaction est totalement sans risque. Les symptômes qu'on voit, c'est vraiment une bouffée vasomotrice au visage ou au cou, une myalgie du tronc et un serrement à la poitrine. Les patients nous disent ressentir une oppression thoracique. Il faut absolument résister à l'envie de leur donner un antihistaminique lors de l'apparition de cette réaction parce que les antihistaminiques vont aggraver la réaction. Il faut seulement arrêter la perfusion durant 15 minutes quand vous avez une réaction de Fishbein. Rapidement, vous allez voir que la douleur et la rougeur disparaîtront et par la suite, vous allez pouvoir reprendre la perfusion du fer, mais à 50 % de son débit initial.
Ben, je vous remercie beaucoup, Mme Roberge et puis Rodrigue. C'était très clair. Ce petit balado se voulait un avant-goût peut-être de la présentation plus formelle qu'on a mise sur le site coeur-poumon-avec-s.ca où vous allez retrouver cette présentation plus complète sous forme de vidéo et de téléchargeable. Et d'autres présentations devraient suivre aussi sur d'autres points relié à ce sujet important. Alors, merci à nos auditeurs. J'espère que cela vous aura été utile. Je suis Dr. Claude Gassois de l'UCPQ de Cœur Poumon avec S.ca. À la prochaine et bonne journée.